L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, on est à New York avec Aurélie Jean. Aurélie Jean, je l'ai rencontrée quand elle arrivait à New York, je l'ai rencontrée sur Twitter d'ailleurs. Et Aurélie, aujourd'hui, elle travaille dans une grande boîte, elle est senior développeur, elle a fait quelques années au MIT. Et avec Aurélie, j'avais envie d'aborder un sujet qui me touche, l'intelligence artificielle, parce que je trouve qu'il y a énormément de bullshit, qu'il y a beaucoup d'imposteurs. Et il y a beaucoup de marques qui se posent beaucoup de questions, évidemment, qui veulent absolument y aller. Il y a toutes ces personnes qui parlent que l'intelligence artificielle va supprimer le travail ou va prendre le travail des marketeurs. Et donc Aurélie, ce que je voulais te poser comme question, c'est vraiment quels sont les bullshit que tu aimerais descendre. Est-ce que tu peux parler de ce qu'est l'intelligence artificielle d'un point de vue scientifique, mais aussi du machine learning et toutes ces choses-là?
Bien sûr. Donc bonjour Grégory, merci pour cette opportunité vraiment, puisque j'aime aussi dénoncer la bullshit, comme tu le dis très bien.
Donc en
fait,
le bullshit,
pardon, excuse-moi. Donc en fait, j'étais très intéressée à répondre à cette question, justement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de l'intelligence artificielle et beaucoup d'imposteurs, comme tu le dis très bien, des gens qui se présentent comme experts et qui ne le sont pas, qui n'ont sûrement peut-être jamais écrit une ligne de code ou écrit une ligne d'un algorithme et qui pourront se permettre de donner leur avis technique, et j'insiste sur technique, sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, on en avait parlé dans l'un de nos Facebook Live.
Ouais.
Il y a différents types d'intelligence artificielle, il y a la forte et la faible. En fait, et l'une d'entre elles est justement tout ce qui est un peu science-fiction avec la machine qui va avoir des sentiments, des choses comme ça, qui encore reste de la science-fiction. Il faut quand même s'en rendre compte. Quoi. C'est... Et puis, tu as l'autre partie qui est la partie qu'on utilise déjà, qui est la partie auquel je crois, qui est l'automatisation, la prédiction et ce qu'on appelle le machine learning, en fait, c'est-à-dire l'entraînement supervisé en fait, de la machine qui va, plus elle va avoir en fait, d'input, de données, en fait, la machine va pouvoir en fait mieux, le code va pouvoir mieux donner une prédiction ou mieux donner une analyse. Par exemple, quand tu développes un algorithme qui va faire de la reconnaissance sur des images et qui va essayer de reconnaître une voiture. Bon, bah, au début, il va peut-être se planter parce que tu vas rentrer des caractéristiques de voiture que tu penses être des bonnes caractéristiques. Mais en fait, plus il va avoir de voitures, l'algo, toi, tu vas lui dire, en fait, ça, c'est bon, ça, c'est faux, t'as bon, là, t'as pas bon. Et en fait, en faisant ça, l'algo va pouvoir catégoriser, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un problème de catégorisation aussi, catégoriser, en fait, la voiture pour justement mieux la reconnaître la prochaine fois.
Mais alors, cette intelligence artificielle, elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui est utilisé depuis un petit moment, en fait.
En fait, l'intelligence artificielle, ça, le mot a été créé, en fait, dans les années 50, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que Joshua Benjo, qui est un professeur sur l'intelligence artificielle au Canada, dit beaucoup qu'en fait, on ne devrait pas parler d'intelligence artificielle, mais de stupidité artificielle, parce qu'en fait, on ne rend pas la machine plus intelligente, on la rend moins stupide. Et je pense que déjà, si on utilisait ce mot, ça ferait moins peur à tout le monde. Cela étant dit, en fait, oui, c'est quelque chose qui est très vieux, et qui a eu une période en fait un peu silencieuse, mais qui a toujours existé quelque part derrière la partie automatisation. Parce que quelque part, moi, je ne me considère pas comme une experte en intelligence artificielle. Néanmoins, j'ai durant ma carrière en fait de numéricienne développé des modèles pour faire de la prédiction et pour automatiser en fait des tâches par la simulation que l'humain ne peut pas faire. Donc en fait, c'est un peu, il y a un peu un mélange autour de tout ça. Maintenant, tu as abordé un sujet moi, qui m'est vraiment très très cher, qui est le sujet de l'emploi. Ouais. C'est-à-dire, comme tu dis, en fait, il y a des gens qui disent que demain, on n'aura plus besoin de marketeurs.
Ouais, par exemple.
Moi, je pense que c'est l'inverse qui va se passer. Donc, en fait, j'ai envie de parler un peu de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas experts, hein, j'insiste encore, qui se permettent de dire que dans 5 ans, il n'y aura plus de job. Et il faut un peu éclaircir un peu ce point-là. C'est-à-dire que oui, l'intelligence artificielle va détruire des millions de jobs, on le sait. Mais j'ai envie de dire, c'est l'évolution naturelle, technologique, sociétale. Pour une petite comparaison toute simple, hein, au 19e siècle, l'agriculture, l'économie de l'agriculture embauchait plus de 80% des Américains actifs. Au 20e siècle, à la fin du 20e siècle, on en a été à 0,3%. Pour autant, tout le monde n'est pas au chômage. Hein, d'accord. Alors après, c'est une transformation qui a été plus longue, hein, je reconnais. Hein, mais là, elle va être plus violente. Mais en fait, ce que je dis par là, c'est que oui, il va y avoir énormément de jobs qui vont disparaître. Mais on va avoir d'autres jobs qui vont apparaître. Et on va remettre dans le cœur des métiers, et le marketeur en fait partie, on va remettre dans le cœur des métiers, en fait, l'humain. Quelque chose qu'on avait complètement écarté, en fait, depuis trop longtemps. Et ouais. Je m'explique, par exemple, je pense à la vente. Pour moi, c'est évident, et c'est pour ça que je pense aux marketeurs. On va reconcentrer l'humain, le client, en tant qu'humain, avec ses sentiments, avec son bien-être, avec sa relation avec le vendeur. On va le replacer, en fait, dans le cœur de l'achat, dans le cœur de l'expérience client. Et en fait, ça, c'est super important, parce que ça a été complètement écarté, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour les grands groupes de reconcentrer leur expérience client sur l'humain. Et de vendre mieux, en fait.
En fait, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent que les codeurs vont disparaître parce que l'intelligence artificielle va coder toute seule. En fait, c'est surtout que ça va supprimer une partie des tâches qui sont de toute façon rébarbatives pour que tu puisses te concentrer justement sur l'humain et faire des choses qui sont plus nobles, je ne sais pas, mais en tout cas plus intéressantes.
Moi, je prends l'exemple souvent de la caissière ou du caissier, ouais. Tu vois, quand tu vas dans un supermarché. Moi, je vais souvent aux caisses automatiques parce que, et en plus, j'ai fait ce métier j'étais étudiante. Je veux dire, c'est atroce comme métier, quoi. Et en fait, le fait qu'il y ait des caisses automatiques, pour moi, les caissiers et caissières vont davantage faire un métier beaucoup plus intéressant qui va être d'aller dans les rayons, d'aller vers le client, de répondre aux questions, de comprendre l'humain. Parce qu'il y a quand même des choses que l'humain sait faire et que la machine ne sait pas faire. C'est de comprendre les sentiments, l'humain, la différence de culture, tu vois, et c'est quelque chose sur lequel il faut insister.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on pense à intelligence artificielle, on pense tout de suite que ça va remplacer les jobs les plus en bas de l'échelle, on va dire.
Ouais.
Et en fait, quand tu parles avec des gens qui sont un peu experts, ils te disent le métier le plus difficile à supprimer, c'est par exemple une hôtesse d'accueil.
Exactement.
Parce que ça, c'est de l'humain pur, c'est de l'humain. Et c'est hyper compliqué. Tandis qu'un broker en finance, c'est quasiment que de la machine.
Ou un radiologue, par exemple. Les radiologues vont disparaître parce qu'on va avoir des outils qui vont pouvoir identifier très facilement, faire des diagnostics très, très, très intéressants, très rapidement et très justes. Mais en comparaison, les radiologues vont disparaître, mais...
Le métier qu'on connaît aujourd'hui, on va dire.
Mais en comparaison, les infirmiers et infirmières vont prendre plus de place.
Et peut-être que les radiologues auront un métier qui sera différent.
Ils auront une mission
différente.
Et donc, pour moi, c'est vraiment... Moi, je vois ça comme une opportunité. Après, ce qu'il faut dire et ce qui est vrai, c'est qu'il faut que les gens se forment. Et quand je dis se forment, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des développeurs ou des producteurs d'outils d'intelligence artificielle. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, en fait, puissent comprendre les technologies, puissent avoir un œil critique et puissent pouvoir, en fait, comprendre comment utiliser les technologies pour définir le champ des possibles dans leur propre métier. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va être l'enjeu, bien plus que d'empêcher des métiers de disparaître. C'est de former les gens à, d'une part, aller plus vers l'intelligence émotionnelle, et d'autre part, de les former plus à la technique pour des postes. Par exemple, les marketeurs, pour moi, sont devenus des digital marketeurs, mais pour moi, vont devenir, en fait, des digital analytic marketeurs. Parce qu'en fait, la transfo digitale, elle est en train de devenir analytique aussi.
Bien sûr.
Parce que la data intervient et l'intelligence artificielle existe grâce à la data. Donc, en fait, et c'est d'ailleurs ce que je fais, moi, avec ma boîte, In Silico Veritas, où, en fait, je propose des formations, du coaching, en fait, pour essayer de former les gens non-tech à la tech, sans en faire des scientifiques ou des développeurs, mais d'en faire des utilisateurs éclairés des nouvelles technologies.
Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour les marketeurs. C'est comment... Enfin, moi, je pense qu'il y a deux choses. On le voit avec Adobe ou avec Salesforce. Ils essayent d'utiliser l'intelligence artificielle pour fluidifier la data auprès des marketeurs, parce que les marketeurs ne sont pas des data analystes aujourd'hui. Donc il va y avoir ce mouvement et l'intelligence artificielle potentiellement peut les aider à mieux appréhender la data. Mais ça, c'est une certitude que ça va être nécessaire.
Oui, mais en même temps, tu vois, c'est intéressant parce que moi, quand les gens parlent d'intelligence artificielle ou de numérique en règle générale, ils pensent que ça se fait tout seul. Mais le truc, c'est que quand tu fais par exemple en marketing, la solution que tu obtiens à partir des données analysées, c'est une solution qui existe parce qu'à un moment donné, il y a un humain, il y a quelqu'un qui a dit « je veux analyser cette data de telle façon ». Pour répondre à cette question précise. Exactement. Ça, c'est pas la machine qui va le définir. Donc, partant de ce principe, c'est ce que je dis aux marketeurs. C'est vous, c'est vous qui êtes capable de prendre une décision. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser une stratégie marketing à une machine, parce que moi, j'y crois pas, parce que l'humain est tellement important. Tu vois, qu'en fait, il faut avoir un œil critique, il faut avoir une analyse fine. Il faut, tu vois, donc c'est...
Et
l'homme va se transformer aussi, enfin, pour reprendre ces notions de transhumanisme, etc. Je pense que parce que la machine sait faire de plus en plus de choses, l'humain va aussi se développer et développer des nouvelles formes d'intelligence, dont, encore une fois, j'insiste, l'intelligence émotionnelle qu'on a peut-être mis un peu de côté.
Et c'est une valeur féminine, alors, du coup. C'est pas une bonne valeur.
Et ben, moi, justement, je pense qu'il faut qu'on tende vers des valeurs un peu plus féminines pour atteindre des valeurs plus neutres, peut-être universelles. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu prends la vente. La vente, moi, j'ai les souvenirs, étant petite, en allant chez Félix Potin, où tu avais une dame, tu vois, qui servait, qui venait nous voir, qui répondait aux questions de mes grands-parents, qui était, tu vois. Et après, on a connu les grands groupes, quoi. Donc, c'était la fin de Félix Potin. Mais on n'a jamais eu, dans les grands supermarchés, le service qu'on a eu chez Félix Potin. Et donc, je pense qu'on va revenir... Alors, c'est un exemple, c'est anecdotique, mais je pense qu'on va revenir à ce service où, quand tu rentrais dans la boutique, la femme ou l'homme qui était dans cette boutique savait exactement pourquoi tu venais, parce qu'elle te connaît. Et elle suit un peu tes courses.
Et alors, du coup, ça veut dire aussi que... Et moi, je le vois, les marques, elles n'ont pas beaucoup investi en data. Non, en particulier sur le CRM, c'est des marques qui, en général... Enfin, ça dépend lesquelles. Celles qui sont en direct consumer sont beaucoup plus dans la data. Tous les retailers sont beaucoup plus dans la data. Mais néanmoins, les marques qui ne le sont pas, elles n'ont pas forcément de données. Et l'intelligence artificielle, elle n'a aucun intérêt et aucune valeur s'il n'y a pas de data.
Bien sûr. De toute façon, à partir du moment où tu fais de la prédiction, de l'automatisation, il te faut de la donnée pertinente. Donc il y a un problème d'échantillonnage et c'est pour ça que la collecte de données est très importante.
Et j'entendais hier un podcast justement avec le patron de Messenger où quand ils ont lancé les bots, tu sais, sur Messenger, il y a eu un énorme appel. C'est-à-dire que les marques, elles ont toutes voulu essayer le faire, etc. Parce qu'elles ont cette envie et cette peur surtout d'être en retard. Donc du coup, cette envie d'aller de l'avant.
C'est intéressant.
Et en fait, eux, ils ont émis avec Mark Zuckerberg, ils ont mis un stop en disant non, mais enfin, les gens, ils n'ont pas spécialement envie de parler avec un bot, en fait.
Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, par exemple, je pense que c'est une erreur dans la direction vers laquelle on doit aller, justement, pour remettre l'humain au centre, en fait, de la relation client. C'est que je pense que le chatbot n'est pas forcément la solution idéale pour tous les services, j'entends. Il y a certains où tu as peut-être envie de parler à une machine, d'autres où tu as peut-être envie d'avoir un humain en face de toi.
Et en fait, ce que tu veux, c'est une réponse qui soit pertinente à ta question.
Voilà.
Peu importe que tu parles à une machine ou pas à une machine. Aujourd'hui, il n'y a pas un exemple, enfin moi en tout cas j'en connais aucun et je lis quand même pas mal sur le sujet, il n'y a pas un exemple d'une expérience où l'expérience avec un chatbot est meilleure qu'avec un humain. Aujourd'hui,
c'est intéressant.
Ça n'existe pas en fait.
C'est intéressant.
Donc du coup, moi je trouve que les marques qui s'enfoncent comme ça dans les chatbots, c'est pourquoi pas, on peut tester, mais c'est certainement pas, enfin en tout cas c'est pas la manière dont on peut envisager et dire qu'on fait vraiment de l'intelligence artificielle, je crois pas.
Toi,
c'est quoi, enfin, qu'est-ce que c'est quels sont les plus gros bullshit que tu as entendu sur l'intelligence artificielle et qui t'énerve le plus?
Moi, je vais être honnête
avec toi. Suppression des postes.
Suppression des postes, c'est ce qui m'énerve le plus parce qu'en fait, moi, j'ai pu écouter et échanger aussi donc avec Jerry Kaplan et Joshua Benjo, qui sont, dont Jerry Kaplan qui vient de la côte ouest américaine et qui était, je crois, prof à Stanford, qui avait plusieurs startups, enfin qui a un grand nom de l'intelligence artificielle aux États-Unis et dans le monde, et Joshua Benjo donc au Canada. Et c'est des gens, si tu veux, qui sont très calmes déjà quand ils parlent de ça. Et moi, j'aime pas trop les agiter déjà. Parce que tu vois beaucoup de gens s'agiter, tu vois, qui font un peu une mise en scène très théâtrale, en fait, lorsqu'ils parlent d'intelligence artificielle.
Et qui essayent de faire peur.
Et qui essayent de faire peur.
Du populisme.
Mais oui, c'est du populisme. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre de la peur que du rêve. Tu vois. Or, moi, je pense qu'il faut faire rêver les gens. Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques dans tout. Et il faut encadrer tout ça. Tu sais, moi, j'ai toujours peur je me méfie des généralités. Donc, quand quelqu'un vient me voir et me dit, de toute façon, l'intelligence artificielle, dans 5 ans, il n'y aura plus de job. Moi, je me dis, mais pourquoi un tel statement ? Ouais. Explique-moi, raconte-moi une histoire, parce que là, je trouve que c'est tellement fort.
Ou plutôt donne-moi des faits, parce que raconter une histoire, c'est assez simple.
Voilà. Je veux dire, oui, il va y avoir des millions de jobs qui vont disparaître, c'est sûr.
Ouais, non, c'est sûr.
Mais ce qui ne veut pas dire que les gens vont se retrouver à la rue. Mmh. Ce qu'il faut, par contre, ce qu'il faut faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'être proactif et d'essayer d'agir maintenant pour faire que, bah, qu'il y ait une bonne transformation, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une opportunité pour l'homme, de se recentrer sur l'humain.
Et il y a quoi d'autre comme, comme contre-vérité ou bullshit qui t'énerve ?
Alors, bah après, c'est, moi, c'est surtout les emplois, parce que c'est surtout là-dessus que les gens... Parce que, je vais être honnête, pourquoi les emplois ? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire un peu n'importe quoi là-dessus sur un fait qui, de toute façon, ne pourra se vérifier que dans le futur.
Ouais.
Donc, tu peux dire un peu ce que tu veux maintenant. Personne ne peut te contredire, en fait. Mm-hmm. Même si, moi, dans 5 ans, je reprendrai chaque personne et je leur demanderai, tu vois, de s'expliquer. Mais après, d'un point de vue technique, je vois rarement des gens parler techniquement de l'intelligence artificielle et dire un peu n'importe quoi. Parce que les gens qui parlent techniquement de l'intelligence artificielle sont souvent des experts.
Ouais.
Par exemple, j'ai eu la chance, il y a une semaine, d'aller écouter... Yann LeCun, qui est le head en fait, de l'intelligence artificielle à Facebook à New York, qui est français d'ailleurs, hein, Yann. Mm-hmm. J'ai eu la chance de l'écouter en fait, justement sur sa vision de l'intelligence artificielle. Et je trouvais que c'était encore une fois très juste, très calme, très facile à comprendre. Mm-hmm. Et pour moi, un vrai expert, tu le reconnais dans sa facilité, dans son
aisance,
à exprimer quelque chose de compliqué.
Ouais.
Et si quelqu'un ne sait pas t'expliquer quelque chose comme ça, quelque part, c'est que c'est peut-être pas un expert.
Bien sûr.
Tu vois, mais c'est mon avis après, tu vois. Moi, c'est vraiment sur les conséquences sociétales où je vois des choses. Mais vraiment principalement sur la perte d'emploi, si tu vois, où c'est. Et puis encore une fois, je crois pas que ça serve à grand chose de taper du poing sur la table en disant que c'est la fin du monde dans 5 ans et que notre seule solution c'est le revenu universel. Non, je veux dire, il faut essayer de voir les choses. C'est beaucoup plus complexe et polymorphe, tu vois. Mmh. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je
c'est
pense.
C'est pas simple.
Voilà.
OK. Et alors, ce podcast, il s'appelle Vlan. et donc,
j'adore
la question, c'est à qui ou à quoi, enfin, sans que ce soit nominatif, évidemment.
Bien sûr, ouais.
Enfin, tu peux faire du nominatif, hein, mais tu auras envie de claquer la porte aujourd'hui.
Moi, je veux faire Vlan et claquer la porte à tous les imposteurs, tous les gens qui se présentent avec une expertise qu'ils n'ont pas.
Ouais.
Et qui ose donner un avis sociétal, humain, économique et de temps en temps, mais rarement technique, sur un sujet qui ne les concerne pas.
Ok.
Voilà. Non, mais ça vient du cœur parce que je pense que c'est important que d'avoir des gens qui sont de vrais experts pour parler de choses compliquées, complexes. Voilà.
Ouais. Cool.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.